J'ai voulu que le Seigneur puisse nous accompagner. Depuis un moment, je suis en réflexion sur le monde évangélique, les églises, les communautés. Et vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, il y a eu du courrier qui a été fait à sept églises qui étaient dans des endroits différents. Je pense que ce matin, il y a tant de gens qui se rassemblent aux quatre coins. Enfin, la planète est ronde, mais tout autour de la Terre, avec des colorations tellement différentes, des conditions tellement différentes, des expressions tellement différentes, des œuvres aussi particulières, liées à leur culture, à leur endroit de vie, à leurs conditions, à leur éducation. Et notre Père qui est aux cieux regarde tout cela avec son regard de Père. Il y a une petite phrase, les enseignants c'est facile, sujet, verbe, complément, toute petite phrase qui a été répétée par notre Dieu dans son courrier comme une introduction. Je connais tes œuvres. D'ailleurs, ce n'était pas pour toujours en dire du mal, au contraire. Je sais exactement ton activité dans le cadre de ta spiritualité. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer, il n'y a pas d'église type sur la terre qui serait par exemple la nôtre. Il y a une multitude de communautés qui ont été constituées par l'Esprit de Dieu sur la base d'hommes et de femmes qui ont rencontré Jésus comme leur sauveur. Et le Seigneur regarde, il se promène, il promène son regard et son cœur dans toutes ces communautés qu'il connaît par cœur. Et pour lesquels, il a un amour total. Le prix qu'il a payé pour qu'elle puisse venir au monde est très élevé. Nous l'avons chanté, nous l'avons partagé et nous nous en souvenons régulièrement. Où je veux en venir, c'est que quand le Seigneur commence à dire à chacun de ces enfants communautés, il dit « Je connais tes œuvres ». Et dans l'Église de Jésus-Christ, il y a différents types d'œuvres, différentes façons de vivre la foi. Par exemple, il faut s'organiser quand on vit ensemble. Il faut se rassembler, organiser ces événements. Il faut peut-être avoir un cœur aux besoins sociaux autour de nous. Et puis, nous nous rassemblons pour nous édifier, pour sonder sa parole, pour l'étudier. Nous nous rassemblons pour prier. Nous nous rassemblons pour exister publiquement et rendre gloire à Dieu afin que la gloire de Jésus soit vue dans ce monde au travers du groupe que nous formons. Et nous voulons ces choses, nous aspirons à la manifestation des dons spirituels, aux miracles, nous prions pour que Dieu glorifie son nom de façon aussi surnaturelle comme il nous l'a été enseigné. Nous avons une histoire que nous respectons. Tant de choses que nous faisons. Maintenant, ce que voudrait nous expliquer le Saint-Esprit, c'est tout ce que tu fais dans le cadre de ta spiritualité et de ton élan et de ton amour pour moi, que cela ne devienne pas un obstacle à la voix de mon esprit dans ton cœur. Pourrions-nous devenir séparés de Dieu à cause des œuvres que nous faisons pour lui? À cause. Et parfois, disons, les utiliser comme prétexte pour endurcir notre cœur et notre oreille à l'appel du Seigneur qui veut nous prendre à part et nous dire « J'ai des choses à apprendre, j'ai un conseil supérieur. » C'était la question avec ces églises, « Je connais tes œuvres. » Et pour certaines, il leur a dit vraiment « Chapeau. » Mais il y a quelque chose qui me gêne, disait le Saint-Esprit. C'est que derrière ça, j'aimerais te dire ta propre vérité. Et je ne suis pas là pour te faire des reproches. Je suis là pour te montrer une voie par excellence. Ça, c'est le souci de notre Père. Alors, une église entreprise, avec un organigramme bien classé, et c'est toujours bien de s'organiser. La désorganisation n'est pas symbole de spiritualité. Une église qui fait des événements, provoque des rencontres, et invite, et se réjouit dans des temps particuliers. Superbe. Une église. Maintenant aussi, il y a la e-church. Il y a certaines personnes qui ont sur Internet une influence. Quelquefois, ils ont même plus d'auditeurs virtuels que d'auditeurs présentiels. Mais en attendant, là derrière, ne diabolisons pas forcément ces choses, ni ne les promotionnons pas comme les meilleurs. Ce sont des véhicules de notre monde. Mais il y a ceux qui sont là en disant, voilà la solution, voilà la révélation. Une église sociale qui fait simplement qu'elle a un cœur pour les malheureux, pour les aider, pour faire quelque chose, très engagée dans cette entreprise, c'est merveilleux. Et il y en a une église qui cherche le miracle, qui veut la révélation de l'Esprit, qui se tient au pied. Alors, elle est très... S'il n'y en a pas, elle serait même capable d'en produire parce qu'il lui en faut pour vivre. C'est son identité. C'est l'Église miracle. Mais le Seigneur n'est pas contre, au contraire. Une Église très théologique qui serait notre, chez nous, c'est études bibliques, prière, études bibliques. Le reste... Rentrez chez vous, c'est bon. C'est l'existence même de l'Église. Ah bah oui, mais il manquerait plus que ça, que ça soit pas bien l'étude biblique, ni la prière. Mais si c'est là toute la réalité de ta communion avec Dieu, une Église institutionnelle qui se définit dans ses références plus importantes, les institutions plus importantes que sa réalité de vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait nous dire là? Le Saint-Esprit veut nous dire, je veux être ton Père. Je connais tes œuvres, mais ce que je suis venu faire, c'est une famille dont je suis le créateur et l'initiateur. Dieu s'est révélé en prenant les patriarches, il a établi une famille. Il a fait grandir. En ton nom, dit-il Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Vous savez la décomposition de la vision famille aujourd'hui. Famille décomposée, famille recomposée, famille monoparentale. Famille en détresse, famille déchirée. Et le Seigneur dit, et moi je suis le Dieu de la famille. Et dans l'esprit même, je veux établir et construire ma famille sur la terre. Si ton entreprise, église, est plus importante que ta relation avec ton Seigneur, si ton œuvre sociale est plus importante que ta relation avec ton Seigneur, si le miracle que tu espères ou que tu cherches est plus important que ta relation avec ton Seigneur, si tes œuvres sociales sont plus importantes que ta relation avec lui, quelle est ta relation? Quel est le sens même de ta foi et de ton christianisme? En fait, Jésus est venu pour créer ce chemin ouvert entre nous et lui. Le fameux voile du temple qui se déchire, le libre accès que nous avons dans l'entrée, dans le sanctuaire. Et c'était la difficulté qu'il avait eue avec ses églises quand il s'est approché d'elles, parce que certaines ont dit, bon, nous, on n'a plus besoin de rien entendre, on est, ça va, on a compris, on a fait, on est, ça va, et tout ça c'est pour toi Seigneur, et c'est même par toi des fois, avec ton esprit et tout ça, donc on a été courageux, persévérant, etc. Donc maintenant, ok. Le Seigneur dit, oui, je voudrais te parler plus près. Je voudrais établir dans ton cœur la vision de la famille dans laquelle je t'ai placé. Et vous savez qu'il y a des clés pour la vie de famille, nous aurons l'occasion d'en reparler en d'autres cas. Alors, il y a ce petit cœur qui dit comme c'est merveilleux d'être une famille. La qualité, alors comment est-ce qu'il faut faire la redéfinition de la famille maintenant dans notre société, dans notre monde? On sait comment ça commence. Un couple qui désire construire une famille sur la base de l'amour et qui veut voir venir au monde. Et il y en a, je connais même certains frères et sœurs qui vraiment prient, parce que c'est comme une frustration pour eux, des enfants qu'ils vont bénir, qu'ils vont accompagner, qu'ils vont faire grandir, toutes ces choses. Et finalement, si l'Église est une famille, et il y a des schémas de principes de vie et de santé de la famille. D'abord, c'est l'état des parents. Et vous savez que ça, c'est quelque chose. Nous, on sait, spirituellement, on a un père. Il est aux cieux. Mais vous lisez, vous connaissez votre Bible comme moi, et il parle des cadres. Ça, c'est pour l'entreprise. Mais il parle des pères et des mères, des colonnes. Il parle des aînés. Il parle des anciens. Je ne veux pas dire un gros mot, je vous ferai bien des anciens. Non, non, des mères, on va rester comme ça. Allez. Mais ce cadre-là, de ce cadre-là, vont découler l'évolution et l'épanouissement de la vie de la famille, au travers de toutes les œuvres que le Seigneur voudra bien nous amener à découvrir et à réaliser avec son secours et son inspiration. Maintenant, si notre Père qui est aux cieux est en nous, par son esprit, il a établi et délégué les pères, les anciens, les colonnes, les mères, les aînés, les conseillères, ceux qui enfantent, les parents, qui accompagnent, qui aident à l'épanouissement et à la réalisation de chacun dans son identité, ceux qui accueillent, qui tracent la voie,
pour la vie de leurs enfants. Leur cœur est passionné, leur vie est consacrée à cette tâche et leur sensibilité à l'esprit est entretenue et renouvelée. Je vais approcher de ce texte que nous aurons l'occasion de lire et de relire, qui est pour moi un texte tellement important. Vous prenez dans 1 Pierre au chapitre 5. Et je prie pour que des hommes et des femmes dans chaque communauté reçoivent cette grâce d'être comme les parents, des responsables spirituels dans chaque communauté. Dieu sait qu'il veut faire fonctionner sa famille sur ses principes de la famille. Il dit ici, voici au verset 1, les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, vous voyez que le personnage ne se place pas au-dessus des autres, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Donc là, on est dans une vision d'espérance. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, dit-il à ses frères et anciens, non par contrainte. Il donne des qualités de cadre ici, mais volontairement. C'est une question d'appel du Seigneur. C'est une question d'invitation de la part de l'Esprit de prendre en responsabilité d'amour et de croissance chaque membre de son peuple par sa moralité, par son identité, par son engagement, par son inspiration d'esprit nécessaire. C'est volontairement qu'on répond à l'appel de Dieu. Le Seigneur ne force personne. Mais c'est une réponse à un appel de Dieu. Parce qu'ensuite, il dit, selon Dieu, non pour un gain sordide. Moi, si je fonctionne dans l'Église, ça me rapporte quoi? Eh bien, oublie ça. Parce que, vous savez ce qu'on dit? Des enfants. Ils viennent au monde, je ne sais pas ce que dire gratuitement, mais après, c'est différent. C'est un engagement joyeux. Et un sacrifice joyeusement consenti. Vous imaginez. Par dévouement, avec dévouement. Et il dit ensuite, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Les enfants, n'utilisez pas ce terme pour parler mal à vos parents. Hein. Mais en étant les modèles du troupeau. Alors, c'est moi le chef, ça n'existe pas dans l'esprit de famille, même s'il y a un chef de famille. L'autorité ne peut pas être de l'autoritarisme. Regardez notre Père qui est aux cieux. Il aurait mille fois l'occasion avec nous de taper tout le temps du poing sur la table et de nous coller au mur. T'as pas encore appris ça? T'es nul! Je fais une petite parenthèse à propos de la seconde chance. Je me méfie de cette expression. Parce que, est-ce qu'il n'y en aurait pas une troisième? Et une quatrième? Et une cinquième? Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas se complaire. Oui, mais le Seigneur est patient avec toi. Combien de fois il a pu t'attendre? Combien de fois il a su aussi te relever? à chaque fois que tu es venu à lui courbé et dans la foi, Seigneur, n'allez pas dire, oh oui, non, mais là, c'était, je t'ai fait ça une fois, deux fois, maintenant, ça suffit. Le Seigneur, comprenons l'amour du Père. Et non, jamais le Seigneur ne justifiera que son peuple se cache derrière ses œuvres spirituelles, entre guillemets, religieuses en tout cas, communautaires, de toute façon, pour lui résister. Là, quand il y a résistance, il dit « repens-toi ». Et son désir n'est pas simplement que nous vivions dans une repentance continuelle toutes les semaines. Parce qu'il sait très bien que nous sommes imparfaits. Et que comme un père digne de ce nom, il nous a pris en connaissant toute la difficulté qu'il allait avoir à nous façonner, à nous éduquer, toute la patience qu'il allait falloir avoir. Nous, parents, après, des fois, on s'en rend compte après. Mais lui, il savait déjà avant. Et tout le renouvellement et la restauration des parents. Et le Seigneur veut bénir ces hommes et ces femmes qui sont engagés dans son Église pour être les cadres. Alors, j'emploie pas ce mot, les pères, les mères, pour porter en affection et en révélation et en conseil et en assistance les hommes et les femmes de Dieu dans la famille du Seigneur. Non pas pour être des chiens de garde, ni des généraux majors qui demandent simplement le garde à vous, mais des pères et des mères, c'est quelque chose dont nous avons tous besoin et que le Seigneur veut susciter. Parce que ça, je l'avais déjà vu quand nous rencontrions dans la montagne, que Dieu veut susciter en réponse à l'appel de Dieu. Dieu appelle, Dieu demande le dévouement. Et il demande l'humilité. Et justement, c'est un point, ça va, j'ai l'heure, que j'aimerais développer avec vous pour continuer dans la révélation de la famille. Le point central entre Christ et Lucifer, la différence fondamentale, c'est juste une question d'humilité. Jésus a déclaré, je suis doux et humble de cœur. Lui, le roi des rois. L'orgueil engendre le déni de sa vérité personnelle. L'égocentrisme. Le combat pour la justification de son identité. L'agressivité. Ou le renfermement sur soi et le découragement. La frustration. Lucifer dit, je suis frustré, je ne suis pas Dieu. Et Jésus dit à Dieu, mon Père, je suis soumis en toutes choses. Voilà comment l'ange de lumière devient Satan. Et comment Jésus devient sauveur. Vous voyez, ça fonctionnera toujours comme ça, même dans les églises. C'est la clé de tout. Parce que c'est ce qui a fait que dans le jardin, entre les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'arbre de la vie éternelle, le choix a été fait de, pour l'homme, se passer de la soumission à Dieu et de choisir d'être aux commandes de ses propres décisions et de ses propres pensées. Et du coup, la conséquence a été, il ne pouvait plus manger et atteindre à l'arbre de la vie éternelle. C'était irréversible. Il a fallu qu'entre les deux arbres, une croix se dresse pour ouvrir le chemin. Tout ça à cause de l'orgueil de nos cœurs. Et savez-vous que nous sommes tous nés avec ce virus? Le plus petit, le plus mignon, le plus gentil, le plus social, le plus méchant. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul, mais je suis venu pour faire grâce et miséricorde à tous par un chemin qui s'appelle le chemin de la repentance, c'est-à-dire de retrouver une position d'humilité. Et nous sommes entrés dans la vie et nous sommes nés, spirituellement parlant, à cause d'un acte d'humilité. C'est que nous nous sommes repentis et nous nous sommes mis sous la grâce qui nous était offerte. Et nous avons dit, oui, Seigneur, je suis pécheur, je veux t'obéir. C'est un acte d'humilité volontaire. Eh bien, savez-vous que nous resterons dans le chemin de la vie en renouvelant cet état d'humilité et son expression aussi souvent que nous en avons besoin. Des hommes et des femmes de Dieu, engagés, servant le Seigneur, peut-être même enrichis de toutes sortes de dons, se sont retrouvés un jour complètement décalés dans la volonté de Dieu, simplement parce qu'ils ont résisté quand Dieu a appelé sur leur propre vie privée. Ils n'avaient plus d'accès. Et ils se sentaient protégés par leur position, par leurs œuvres, par leurs activités, par la reconnaissance peut-être aussi des autres. Et le Saint-Esprit ne pouvait plus arriver à entrer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Qui que tu sois, quoi que tu sois, tu resteras dans la croissance spirituelle en restant dans l'état d'humilité. Et en t'y maintenant, par l'invitation du Saint-Esprit. Imaginez l'apôtre Paul quand il parle aux anciens de Milet, il va les quitter. Il sait qu'il les reverra plus, mais il veut leur donner quelques conseils de père, à eux aussi, qui vont être et qui sont des pères. Il dit, souvenez-vous comment j'ai servi avec vous, au milieu de vous, avec larmes, en toute humilité. Certainement, je ne vous ai pas caché le conseil de Dieu, mais comment j'ai servi avec larmes en toute humilité. C'était sa signature. Et pourtant, monsieur l'apôtre, vous savez que le Seigneur l'a appelé, quel appel, pardon, quelle révélation, et le troisième ciel, et toutes ces choses qu'il ne pouvait même pas raconter tellement c'était magnifique, et toute cette révélation de la fondation et de la structure des églises. Alors, à un moment donné, il dit quand même, ça m'embête de servir handicapé. Seigneur, ça serait quand même plus facile si je traînais pas ce truc. Le Seigneur a dit non. Parce que toi, si je te laisse avec la guérison, je vais plus te tenir. Et Dieu l'a maintenu avec son handicap à cause du fait qu'il se serait enorgueilli, il serait sorti du terrain de l'humilité. Et quelquefois, vous savez, on se demande, le Seigneur a besoin de nous, faudrait-il que nous y soyons contraints à certains moments, ramenés à certains moments dans cet état d'humilité, que l'humilité, tiens, ça me fait penser à une parole de l'apôtre, vous amène à regarder l'autre supérieur à vous. Oui, ben là, Seigneur, attends, parce que j'ai eu du mal avec ça. Dans certains cas. Mais le Seigneur va dire, mais tu sais, au niveau des origines, s'il avait connu, s'il avait été favorisé comme tu l'as été, peut-être qu'il serait mieux que toi aujourd'hui. Et toi, si tu avais vécu ce qu'il a vécu, peut-être tu serais pire que lui. Alors, laisse-moi gérer ce que j'ai à gérer, mais ne te mets pas comme dominant, comme juge. Tu peux être inspiré, tu peux discerner même les difficultés, les problèmes, que les victoires que ton frère, ta sœur a remportées, mais le respect et l'humilité sont très importants. Parce que sinon, tu vas commencer à te gonfler un peu, le torse, les chevilles, enfin tout le reste, la tête, et tu vas commencer à devenir un super saint qui comprend mieux que les autres et qui veut devenir le père des autres. Et alors là, père, n'irritez pas vos enfants. J'ai déjà entendu ça quelque part, pas vous? La domination, l'autorité n'est pas dans la domination. Et le Seigneur veut nous apprendre ces choses dans le cadre de l'humilité. Oui, c'est, vous savez que dans notre humanité, à cause de ce que, comme l'apôtre pouvait dire, vous rendez compte, lui, l'apôtre, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Alors lui, il était lucide. Et il a compris que il avait continuellement besoin. D'abord, c'est pas compliqué. Jésus dit, sans moi, vous pouvez faire quelque chose? Non, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que nous portons ce virus qui doit être continuellement purifié, notre cœur qui revient immédiatement dès que l'autorité de l'Esprit Saint nous y échappons volontairement, alors nous repartons dans nos petites façons de chair qui nous poussent à diviser. L'histoire de l'Église, en réalité, vous pourriez dire comme ça, pour être très cru, c'est une histoire de chamaillerie perpétuelle. On dirait, pasteur, tu exagères quand même. Je pense, bon, ben, reprenez l'apôtre Paul et toutes ses lettres, et toutes ses exhortations, et toute la clarification qu'il amène, et la révélation de l'Esprit pour dire, Jésus dit, si vous n'êtes pas un, et c'est la prière de Jésus, comme moi et mon Père nous sommes un, vous n'avez aucune identité chrétienne sur la terre. C'est à l'amour dont vous vous aimerez que votre identité chrétienne sera reconnue au ciel. Et alors là, Seigneur, je me sens si faible, si démuni, parfois si découragé, parfois si triste, parfois si en colère. Et le Seigneur arrive avec son esprit et me dit, je sais, mon enfant, je sais. J'ai connu les mêmes choses. J'ai traversé ces choses. Et ce sentiment d'injustice qui peut te démolir Moi, je l'ai connu à la croix. Je l'ai connu même quand je guérissais les malades de mon peuple. Et certains me disaient que c'était à cause du démon que j'avais en moi. Je l'ai connu dans tant et tant de situations, peut dire Jésus. Je sais. Mais fais-moi confiance. Parce que le chemin que tu passes n'est pas étrange. Il est le chemin normal de mes enfants sur la terre. Maintenant, tu vas faire, mon enfant, avec moi, tu vas faire la différence. Laisse-moi te défendre. Laisse-moi te fortifier. Et c'est là que prennent son sens tous ces textes. Toutes choses contribuent au bien de ceux qui sont décidés à rester attachés à Dieu. Et c'est cette clé de l'humilité. Sans ça, tu vas venir avec la frustration, tu vas venir avec l'arrogance, tu vas venir avec une forme de justification personnelle, mais tu seras malheureux. Et tu diras, oui, ça aime ton prochain comme toi-même. Mais oui, j'y arrive pas. Bon, c'est clair, j'y arrive pas. C'est pas la peine de faire des efforts inhumains que tu n'arrives pas à faire. Tu viens au pied du Seigneur, je dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je me mets sous ton autorité, Seigneur. Je me mets sous ta grâce. Et je suis curieux de voir comment tu vas me sortir de là. Comment tu vas sécher mes larmes. N'oubliez pas l'espérance éternelle, l'humilité, le caractère de Jésus. L'humilité, la volonté de Dieu. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La clé d'une relation sociale et fraternelle, c'est vraiment spirituelle. Où notre spiritualité n'est pas dans nos œuvres, elle est d'abord dans nos cœurs. Qui produisent aussi, forcément, les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Mais avec quel autre éclat, quelle autre lumière? Et je ne suis plus là à me regarder en disant, oh, comme je sers Dieu, comme j'ai bien réussi ça, comme ça, nous sommes quand même au top là-dessus, comme ceci, comme cela, et nous, on dit, ah, c'est pour toi, Seigneur. Le Seigneur dit, oui, mais j'aimerais davantage ton cœur, s'il te plaît. Oui, le chemin de la gloire, parce que l'humilité précède la gloire. La disposition de cœur de Jésus, c'est l'humilité. Et il n'a pas regardé à se dépouiller pour nous sauver. C'est par humilité, signifiait l'apôtre. L'expression de l'amour divin pour chacun de nous, c'est la disposition du cœur de Jésus qui a fait cela. Oui, vous savez, vous entendez comme moi dans toute la misère de ce monde et la misère aussi intellectuelle et morale de certainement bien des hommes et des femmes qui nous dirigent, que nous sommes appelés, pour qui nous sommes appelés à prier, que nous sommes appelés à respecter, mais malgré tout, quelle souffrance. Alors vous les entendez tous dire une même chose, on veut rassembler. Ça c'est un mot, il y a même des partis qui s'appellent rassemblement. Donc, je veux rassembler, tout le monde veut rassembler, mais tout le monde veut rassembler autour de lui. Alors nous voulons rassembler autour de lui. Et ça va nous coûter très cher. Ça va nous coûter notre ego. Ça va nous coûter nos projets, ça va nous coûter nos résistances. Ça va nous coûter nos propres convictions parfois même. Restons attentifs à la voix du Seigneur chaque jour. Oui, Paul, tu as été maintenu dans l'humilité par la grâce de Dieu qui t'a laissé ce handicap pour te préserver de l'orgueil. Si lui, Paul, avait besoin d'autorité d'être préservé de l'orgueil, vous imaginez. Oui, mais c'est normal. C'est comme ça qu'on est. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur nous aime, nous a sauvés. Et c'est comme ça que le Seigneur va venir avec son esprit pour nous aider, nous accompagner, nous faire triompher. Et avec patience, nous renouveler. Et dire, on va y arriver, toi et moi, ensemble. Renouvelle en moi, Seigneur, un esprit bien disposé. C'est surtout ça la clé. Garde-moi de l'endurcissement, de la justification, de la victimisation. Je fais des bêtises, mais ce n'est pas de ma faute. C'est parce qu'on en a fait à mon égard. Ça ne justifie rien. Le Seigneur est bon avec nous. Il a un tel amour. Oui, nous sommes entrés dans la vie par l'acte d'humilité de la repentance. Nous y croîtrons et nous y grandirons en famille, dans cet esprit, pour faire vivre la famille au prix de notre vie. Le sacrifice du service de Dieu, c'est donner notre vie pour la famille du Seigneur, avec ses fragilités, avec ses besoins, avec ses chutes, avec ses complications, avec ses échecs. Et au lieu de nous lamenter quelquefois en disant « mais c'est pas possible, et si c'est possible, dit le Seigneur, mais il y a aussi autre chose qui est possible, c'est la victoire, c'est l'espérance. Et toi, mon enfant, tu vas servir cette cause. J'ai besoin de toi. Oh non, mon Seigneur, tranquillou. Hein. Bah, je rentre chez moi, pépère, avec ma Bible et oh. Non. J'ai besoin. Il y a besoin des parents dans la maison. Et il y a besoin des parents tels que le Seigneur nous l'a enseigné. Et après, il parle aux nouveaux, aux plus jeunes. Mais ça, ce sera l'occasion d'une autre méditation. D'abord, commencez à manger le premier plat, parce qu'après, sinon, ça ne va plus. Le Seigneur a besoin de vous, bien-aimés, d'une belle famille. Et au milieu de tout ce qu'on peut vivre dans son chemin, eh bien, en restant attaché au Seigneur avec cet esprit-là, on va apprendre dans le concret. Peut-être qu'on va descendre d'un cran. Peut-être qu'on va revoir notre identité à la baisse. Mais ça, c'est pas bien grave. Parce qu'on va se rapprocher du Seigneur. Et on va apprendre de lui ce qu'on a besoin d'apprendre. Et on va apprendre à se respecter. Et on va apprendre à se bénir les uns les autres. C'est un apprentissage. La bienveillance. On va apprendre parce qu'on a besoin. On parle tout le temps d'amour, l'amour. On ne sait pas ce que c'est au départ, naturellement. Il n'y a que lui qui est la révélation de l'amour. Et c'est lui, par son esprit, qui va nous l'apprendre au jour le jour, dans nos souffrances, dans nos défis. Heureusement que nous avons été aimés et que nous le sommes encore. Ne mettez pas l'amour de Dieu au passé. Oh Seigneur, tu nous as aimés. C'est vrai, il a mis le comble à son amour pour nous à la croix, mais tu nous as aimés. Oui Seigneur, tu nous as aimés, mais Seigneur, ce matin, tu m'aimes encore. Et quand je me regarde des fois, moi je ne m'aime pas. Et je me dis non, c'est pas possible. Tu m'aimes moi? Alors ça c'est bluffant. Mais je t'aime pour te faire tenir relever la tête et te préparer pour la gloire. Te préparer pour la gloire. Vous savez la passion du Père qu'il transmet à ceux qu'il veut mettre en responsabilité dans son Église, transmettre la passion. On va arriver ensemble dans la gloire jusqu'au bout. Et même au point que un frère, une sœur ne s'aimerait plus, serait complètement découragé. Mon frère, ma sœur, nous, on priera avec toi, on priera pour toi. Toi, tu as dérapé, ben, d'une façon magistrale. Tu es parti en cacahuète, comme on dit. Mais nous, on a la passion pour toi. Oh, vous approchez pas, je suis indigne. Si, si, si. On ne démissionnera jamais. Il y a une forme de... Je ne sais pas s'il faut employer ce mot, mais... Une forme de rage. L'adversaire ne nous aura pas. Il est vaincu. Et c'est là, dans les apparents dégâts qu'il arrive à faire, parce qu'il s'entend sa fin proche, et c'est sur le peuple de Dieu et la famille du Seigneur qu'il tire tous les obus et les scuds qu'il peut tirer. Et avoir les appuis dans le cœur de chacun de ceux qui s'écartent de l'autorité de l'Esprit dans leur vie. Mais le Seigneur ne lâche rien. Il veut faire paraître son Église sainte, irrépréhensible, devant lui. C'est lui qui le fera, dit Paul. Et son Esprit agit. Le crois-tu ? Son Esprit agit dedans ou à la porte? Mais il agit. À la porte, il agit, il frappe. Il dit, je veux entrer. Je t'aime. On va souper ensemble, on va partager une nourriture solide. Et quand on lui a ouvert, alors il agit, et il agit dedans, et il transforme. La clé pour ouvrir ta porte, ça s'appelle humilité. Viens, Seigneur. J'ai pas compris, j'ai mal, j'ai peur, mais c'est toi qui as raison. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse son peuple, sa famille. On va continuer à travailler sur la famille et sur les enfants et les petits-enfants. Seigneur, merci. Merci de faire de nous une famille et une famille que tu veux.